Marc-Antoine Reed, conseiller financier de Rage Against le Matin. Comment ça va?
Ça va très bien, vous trois?
Ah, super bien.
Tu veux le matin, toi? Ben tu veux le matin, en plus?
Absolument.
Fait beau, soleil brille.
Faisait beau comme ça aussi, un beau Ken.
Soleil rock and ball d'annonce.
On a lancé, t'as-tu entendu ça?
Non.
On a lancé notre nouveau concours, OK? Tu te souviens du concours Rock and Pop? On envoyait quelqu'un, puis c'était en fin de semaine dernière, là, finalement. À New York, Madison Square Garden.
Oui, show c'est ça, c'est vrai. J'ai vu un post qui disait la destination allait être... As-tu annoncé cette
fois? Ouais. Là, cette fois-ci, San Francisco. Show de Blink 182.
OK,
et un match de baseball entre les Giants et les Blue Jays.
Super, c'est ce que les chroniqueurs ont le droit de participer.
Malheureusement, quoi, je pense. Faudrait que je check les règlements. Je pense pas non plus.
Lâche-nous pas, là.
Ouais, c'est ça. Lâche-nous pas pour le concours, là. Comment?
Viens d'annoncer à Marc-Antoine, c'est sa dernière chronique.
Lui nous l'annonce.
C'est ça. Hey, je m'en vais participer au concours. On se revoit en août, je gongue pas.
Hey, Marc-Antoine, tu veux qu'on parle de placement, mais peut-être le côté plus personnel dans ça, le côté plus humain là, des décisions qu'on va prendre.
Ben oui, je trouvais ça intéressant de vous parler de ça. Premièrement, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas parlé de placement. On a parlé quand même d'impôts, REER, fiscalité. Puis, je voulais qu'on prenne un angle différent. Pourquoi? Parce que notre nature humaine a une grosse influence sur notre potentiel succès dans nos décisions d'investissement. Je parle un petit peu de théorie, là. À titre d'exemple, 1 000 $ qui aurait été investi en 1935. Ça fait quand même un petit bout de temps. 87 ans, 1 000 $ investi dans un portefeuille modéré. Je ne parle pas d'un portefeuille dynamique ou 100% action. Dans un portefeuille modéré, vaudrait à la fin 2022, 31 décembre 2022, un peu plus d'1 413 000 pour un rendement de 8,6%.
Ben voyons donc.
Ouais. Fait que ça c'est la théorie, par contre.
Fait que ça, c'est en 85 ans à peu près, là, si
87 ans.
87 ans.
1000 piastres qui dépassent le million.
Ouais, puis il y en a qui disent, ben, tu sais, ouais, c'est sûr, mais 1000 piastres, c'était beaucoup d'argent à l'époque. C'était 22 000. L'équivalent, tu sais, on réfléchit à 22 000 $ aujourd'hui, 1 413 000. Là, évidemment, si on va dans un portefeuille dynamique, ça serait beaucoup plus que ça.
Oui.
Mais j'y ai été, mettons, dans une moyenne. La problématique, c'est que nous, en tant que conseiller financier, on utilise différents outils pour montrer un petit peu le passé, les marchés, les périodes difficiles, comment ça a pris le temps à se résorber. C'est toujours très court. Là. En moyenne, moins d'un an et demi, puis on se remet d'une période difficile, puis on repart à la hausse. Fait que, on se sert beaucoup de certains tableaux. Mais la réalité, c'est qu'il y a très peu d'investisseurs. Les études sortent là, à chaque quelques années, faites de façon différente. Puis les investisseurs ne réussissent pas à s'en approcher de cette théorie-là. Pourquoi? À cause du facteur humain.
Okay.
Donc, on a tous des biais en tant qu'être humain. Ça fait que je trouvais ça sympathique. Puis on s'intéresse beaucoup à ça. Puis là, je vais parler particulièrement aux gens qui sont tentés de gérer une portion de leur portefeuille seul ou au complet seul.
Ouais.
Vous êtes plus enclin à faire ce type d'erreur-là parce que vous n'êtes pas guidé par un professionnel. Je ne prêchais pas pour ma paroisse. Je vais juste dire les biais qu'on peut avoir. Puis de lire un peu là-dessus va nous permettre d'être moins influencés, de prendre de meilleures décisions, de s'approcher de la théorie, faire plus d'argent dans le fond, en gros. Fait que ça a commencé en 1980, ça s'appelle la finance comportementale. Ceux qui s'intéressent un peu là-dessus, vous pouvez googler, il y a plein d'informations là-dessus. Puis je vous parle de quelques biais qui sont souvent présents. Je vais vous donner des exemples, parfois d'investissement, mais parfois autre. Je vais finir par un petit sympathique aussi sur le monde de mettons, de la drague ou de l'attirance, là, qui est vraiment, qui ressemble au placement aussi.
Okay. On va draguer en plaçant de l'argent.
J'allais pas dire Maxime, pas de drague, c'était pas le bon mot, là, drague.
J'adore.
Mettons, du marché de disponibilité, on pourrait dire ça comme
J'adore ça.
Fait que le premier qui est très fréquent, le premier biais qu'on a tendance à avoir, c'est l'aversion au risque et au regret. Je les ai mis ensemble, puis je vous explique un petit peu. Ça a été prouvé par toutes sortes d'expériences que la douleur ressentie quand on fait une perte est beaucoup plus grande que la satisfaction de faire un gain équivalent.
Okay.
Ce qui devrait pas vraiment être le cas.
Ben non. Fait que ça veut dire, exemple, je gagne 20%, je vais être moins heureux que si j'en perds 20 par rapport à mon malheur.
Exact. Puis là, si je vais un petit peu plus loin puis je parle du regret, l'être humain va plus regretter un mauvais résultat s'il a pris une action concrète que le même mauvais résultat qui a été engendré par une inaction.
Okay, mettons, t'es au casino, puis là, tu perds de l'argent parce que t'as tourné la machine.
Ouais, je sais pas si j'aurais utilisé celle-là, mais mettons d'acheter un titre puis faire une perte. va être plus fort que de ne pas avoir pris la décision d'un investissement qu'on trouvait très sensé et raisonnable, puis de ne pas avoir fait le même,
le gain
parce qu'on n'a pas agi.
Puis de voir que tout le monde d'autre a fait le gain.
Entre autres aussi. Tu n'as
pas embarqué.
Oui, c'est ça. Mais non, puis ça, ça se reflète dans plein de choses. Je l'observe. Mettons, il y a des gens qui ont des pôles de hockey avec des échanges, puis tout ça. Il y a des types de joueurs qui préfèrent ne pas faire un échange parce qu'ils ont peur de regretter de l'échanger, même s'ils trouvent qu'il est sensé l'échange.
Puis vois-tu ça en contrepartie, une autre place, moi je le vois, c'est les fameux groupes de l'auto dans les
Ils veulent absolument faire partie du groupe.
Je veux absolument faire partie parce que je veux pas être celui qui n'aura pas fait le
c'est
qui n'aura pas
ça, dit
hey,
peur de regretter. Dans le fond, il y a toutes sortes de techniques de vente qui sont basées là-dessus aussi. Mais là, comment ça peut se refléter? Une fois qu'on a compris ça, comment ça peut se refléter? Bien, une des choses que je dirais, c'est qu'on a tendance à apporter beaucoup de poids de souvenir du prévisionniste qui était négatif. Peu de gens se souviennent de ceux qui ont dit « Hey, les marchés vont être bons cette année, puis ça va faire 10 %». Par contre, celui qui avait averti d'une perte, si elle ne se produit pas, on l'oublie. Mm-hmm. Si elle se produit, on dit « Hey, lui, c'est un king. Il avait vu que ça allait baisser. » Puis là, on lui donne de l'attention médiatique. Ça fait que ça peut influencer des mauvais comportements. Autre chose qu'on voit souvent, d'avoir de la misère à tourner la page sur un mauvais investissement. Ça, je l'observe souvent.
Ça te ronge par en dedans.
Oui, c'est ça, tu sais, de dire, de prendre la perte, là, mm-hmm. la douleur de prendre la perte. Là, on attend puis on espère que le titre reprenne pour ne pas avoir cette émotion-là, si on veut. Ça fait que ça va amener des mauvais comportements ou des comportements qui ne sont pas optimales pour les décisions. Deuxième chose, là, on appelle ça le biais d'ancrage. C'est une tendance qu'on a, l'être humain, d'inclure des facteurs qui ne sont pas pertinents dans nos décisions. Je vais vous donner un exemple que je vois fréquemment au niveau de l'investissement. Mettons que tu détiens un titre qui est à 82 $ puis tu dis « je vais le vendre, mais que ce soit 100 $ C'est quoi 100 $ C'est toi qui as décidé ça, qu'un chiffron serait le bon moment
le
pour vendre.
Il n'y
a aucun facteur lié en arrière de ça. Ou un peu relié au précédent, puis aussi de dire « je vais le revendre, mais que je reprenne mon prix d'achat » tu sais, quand il a baissé. Ça, tu sais...
C'est pas basé
c'est
sur
pas,
des
c'est pas rationnel. Là, c'est du tout rationnel. Puis moi, une petite question que je pose pour contrer ça puis faire tourner la page, je dis aujourd'hui, si tu n'avais pas ce titre-là, est-ce que tu le rachèterais? Presque tout le temps, l'investisseur me répond non. Bien, je dis c'est la seule chose qui compte. C'est à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Ton rendement à partir de tes décisions d'aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Le prix que tu l'as payé dans le passé ne devrait pas être un facteur ou une influence. Prochain, l'effet de dotation. Fait que il y a des études qui ont été faites là-dessus. C'est la tendance de l'être humain d'accorder une valeur plus grande à ce qu'il possède. Fait que l'exemple qui a été fait avec un groupe, mais je vais l'amener à la sauce animateur radio. Max, je te donne une tasse de café. Elle est à toi, je te la donne. Puis Reg, tu l'as pas, la tasse de café. Bien, si je demande à Max quel prix tu serais prêt susceptible de la vendre, puis je te demande quel prix tu serais susceptible de la payer, selon les études qui ont été faites, Max, tu risques de forte probabilité de me dire un prix plus élevé que ce que Red serait prêt à payer parce que tu la possèdes.
Elle est à toi, elle est belle, elle est bonne.
C'est comme un DG au hockey qui veut vendre ses joueurs plus cher que le prix que les autres sont prêts à payer.
Hey, c'est un bon exemple.
Très
ça.
Bon exemple. Ça existe dans toutes les décisions.
Puis il y a tout le côté émotionnel là-dedans de je l'ai, je l'aime.
Marc-Antoine me l'a donné.
Je la touche à toutes les, je la touche à tous les matins. Il y a tout ce côté-là.
Ouais,
aussi,
je prendrais moins cet exemple-là. Des fois, la nature humaine fait l'inverse, malheureusement.
Ah ouais?
On pense que celle qu'on possède pas ou celui qu'on possède pas est plus intéressant que celui qu'on possède.
Le gazon est plus vert chez le voisin.
On appelle ça le concept de l'infidélité, je pense.
Finalement, je te donne 1 $ pour ta tasse.
Moi, je reste à 10.
Ah, OK.
Fait que ça n'est un. Quand on est conscient que la nature humaine est faite comme ça, ben, on est moins susceptible. Donc là, l'erreur qu'on peut faire, c'est tomber un peu en amour avec ses produits de placement ou avec ses titres. Puis laisser moins de place à la rationalité de dire est-ce qu'il a atteint son plein potentiel, puis il y a quelque chose d'autre de plus intéressant. Il m'en reste 3, mais je vais aller un petit peu plus vite sur les 3 autres. L'excès de confiance. L'excès de confiance chez une proportion de l'être humain est très présent. Fait que quelqu'un qui a eu du succès, et même si c'est à des facteurs externes, il est susceptible souvent de prendre inutilement de la confiance en lui, puis de prendre de plus en plus de risques, puis d'omettre certains facteurs au processus décisionnel. Et quand arrive une mauvaise période, de se brûler ou d'être exposé à trop de risques, ça, c'est très fréquent aussi. La confirmation, je le vois chez même les plus grands experts. C'est quoi? Des gens très intelligents qui ont une opinion un peu préconçue, Puis il y a tellement d'informations disponibles qui peuvent être expliquées de façon rationnelle qu'ils vont prendre l'information, qu'ils vont confirmer leur première vue sans être ouverts aux autres. Ça fait que là, ça amène à des mauvais conseils ou des mauvaises prévisions. Puis ça, ça fait partie de la nature humaine. Je le vois aussi, mettons, je ne veux pas catégoriser, mais un économiste qui est un peu négatif de personnalité va avoir tendance à toujours voir noir un peu. Puis ça va être très bien exprimé. Il va prendre des données. Puis si tu l'écoutes, il va dire, Colin, as-tu raison? Parce que c'est bien expliqué. Mais souvent, il va mettre plein de choses qui sont bouclées. Okay. Puis le dernier, avec un petit exemple sympathique, l'effet de simple exposition, qui est un biais aussi qui a été confirmé et étudié. Puis je vais vous montrer un petit exemple là-dessus, puis vous dire comment ça peut s'appliquer à la source de placement pour conclure. Il y a une étude qui a été faite à l'Université de Pittsburgh, qui ont pris 4 photos à la fin d'une session. Ils ont pris 4 photos de filles, mettons, avec un niveau de beauté, sur cet objectif, mais un niveau de beauté similaire, là, selon plusieurs. La seule chose qui les distinguait vraiment, c'est la quantité de fois que ces filles-là s'étaient présentées au cours.
Okay.
Il y en a une qui s'est présentée 0 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois. Savez-vous laquelle qui a gagné la plus belle?
Celle qui s'est jamais présentée?
Non, c'est l'inverse. Celle qui s'est présentée souvent parce que t'es exposé. Tu la vois. Fait que la morale de cette histoire...
Il y a plus un attachement qui se fait.
Max, oui. Fait des podcasts en masse. Non, ouais, c'est ça.
Plus, Max.
Non, mais quand on est exposé à quelque chose, on est plus susceptible de le remarquer favorablement au même titre. Il y a plein d'exemples de ça qui me viennent à l'esprit. Ça fait que comment ça peut se refléter comme biais ou comme erreur typique qu'on pourrait faire avec nos investissements. Mettons qu'on va... ça n'existe plus, ce stock-là, mais mettons qu'on va constamment au métro. On va avoir tendance à éliminer des possibilités de placement intéressantes qui font moins partie de notre univers visuel ou qu'on fréquente. Puis de privilégier, parfois à tort, les compagnies qu'on connaît, avec lesquelles on est familier, mais l'univers des possibilités d'investissement, il est très grand. Ce qu'un professionnel ne fera pas. Ça fait que, tout ça pour conclure que si vous intéressez un petit peu au sujet, puis en même temps, si vous gérez un petit peu d'argent vous-même, vous n'avez pas le choix de lire là-dessus puis mieux comprendre l'être humain pour éviter vos propres biais, premièrement. Et deuxièmement, ça, c'est un renforcement de dire affaire avec un professionnel parce que la nature humaine, on n'est pas tellement... On a tendance à les faire facilement, ces erreurs, nous-mêmes. Mais quand on a quelqu'un qui est un peu plus froid puis avec un certain recul, bien, ça peut nous éviter plusieurs erreurs et de s'approcher d'une théorie au niveau de l'investissement, qui est très belle et très payante, là, donc d'avoir une grande rentabilité, en gros.
Marc-Antoine, si on veut en jaser un petit peu plus avec toi et ton équipe, facile de vous contacter.
On est facile à rejoindre, un numéro sans frais qui explique bien ce qu'on fait avec nos clients, 833-TON-PLAN, donc chaque client a un plan financier. Puis sinon, vous pouvez nous googler équipe Marc-Antoine Riz, vous allez tomber sur notre site internet ou réécouter cette chronique. Puis si le sujet vous intéresse, j'encourage aussi à googler pour en lire un petit peu plus sur internet, là, sur différentes documentations qui existent là-dessus.
Marc-Antoine, bonne semaine.
Ben oui, bonne semaine à vous trois.
Sinon, visitez le blvd.fm dans la section réécouter. On se retrouve après la pause. Red.